Tov Erev Tov, on est aujourd'hui, ce soir, lundi soir, 30 du mois de mars, et le Vav, puisqu'on est déjà la nuit, le 6 du mois de Nissan, le Chaim Tovim ou Shalom, question-réponse dédiée, Bezrat Hashem, pour, dans la liste, c'est Vanessa Sarfati, Shakadosh Baruch Hu Yivarech Otar Bechol Asher Alach, le Chaim Tovim ou Shalom, vous et toute votre famille, Bassachar Rabat, comme vous pouvez l'entendre, on est à la maison, on est confiné comme tout le monde, on respecte les consignes du ministère de la Santé, et ce soir on se verra pour le temps nécessaire, en tout cas pour répondre à vos questions, Bezrat Hashem, pour ceux qui sont intéressés, bien entendu, à cela. En attendant, une grande refoua shlema Bezrat Hashem pour tout le peuple d'Israël, ou Bichlalam, et aussi un bon accouchement pour Dvorah Bat Elisheva, Batsheva, וכן une הצלחה, une בריאות pour Ruth Simcha Bat Avraham, רפואה שלמה pour Yirmiyahu Ben Hirsch Hillel, Laurent Simcha Bat Alice, de Aaron Eric Ben Ivet, בעזרת השם, רפואה שלמה pour tous les malades d'Israël, ובכללם את השם הטוב, il y a beaucoup de noms, je m'excuse, mais... Naomi Esther Bat Rachel, Esther Bat Aziza, וכן דוד בן יפה, יואב בן מרים, רפואה שלמה פור אליהו, אנדרי בן סוניה דבורה, חיים, לא, עשה זה כבר לילו נשמת, רפואה שלמה פור פרדריק, בתויגת איחי בן פורטונה, רפואה שלמה בעזרת השם, דרות היהודה ללושי קלוד ומרטין גוזלן, ובכן רפואה שלמה פור חי בן די, די, דיה, די, je ne sais pas ce que c'est, Ben Da'e, Ben Da'e Baruch, Veda'e Bat Fortuné Baruch, qui sont donc à l'hôpital dans un état difficile. Shem Ya'azor, Refoua Shlema Bezrat Hashem pour tous ses proches aussi, Mandel, ça c'est l'Elou Nishmat, Refoua Shlema pour Ava Bat Hild. En attendant que les gens se branchent et que vous ayez les questions, je remercierai aussi Steve Witmezgin, Katia Kriev Todaraba, Kwen Boulakia, Oron Ankri Todaraba Mikol Lev, beaucoup de noms, il y a El Batavram Mamou, Henri Meslati, Hashem Verechotra Todaraba, Khalifa Meslati, Johanna Fitoussi, Morgan Lesky, Vechen El Zaderech, et aussi une grande refoua shlema pour toute la liste que nous avons ici. Bezrat Hashem, le Kol Echad Ve'Echad, Merishima Azot, Recto Verso, on pense à vous, on prie pour vous. Bezrat Hashem, et qu'on n'entende que de bonnes nouvelles. On va commencer, Bezrat Hashem, d'abord et par faire quelques petites annonces. J'ai appris qu'il y aurait, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, c'est des shmuot, ce sont des. Oui, des rumeurs que des rabbanim auraient dit que ce serait même une mitzvah de se faire brûler quand on est mort ou quand on a des morts, de se faire incinérer. C'est le mot que je cherchais en français. Vadaï, qu'après avoir vérifié ça aujourd'hui, puisque j'ai entendu cette rumeur avec des rabbanim spécialisés dans le domaine justement de la halakha, des poskim halakha israéliens, et par rapport à la pandémie, à ce qui paraît, il y aurait donc des rabbanim qui aurait dit une chose pareille, des vadaï que c'est strictement interdit, je ne sais pas sur quoi il se base. J'ai appelé des poskim, j'ai eu au téléphone même le Rav Yaron, spécialisé dans les halakhot, qui est tombé par terre et m'a dit « Le'olam lo shamati davar kazé » qu'on brûlait des corps, ce n'est pas une peste, il ne s'agit pas de choses qui ont atteint le paroxysme du non-retour, c'est un virus dangereux, et quand on a une personne décédée, dans le judaïsme, on sait que les corps ressentent tout, donc, bevadai, qu'on ne brûle pas nos morts. De l'autre côté, j'ai aussi entendu une rumeur. Je ne sais pas si elle est vraie ou fausse, mais on m'a dit que le consistoire demanderait 5000 euros pour enterrer des morts. Sinon, on leur dirait, eh bien, vous n'avez qu'à aller les brûler. Fausse, vraie rumeur, je ne sais pas. Mais si c'est le cas, c'est extrêmement grave. Et j'ai appris aussi que Déborah Amar, qui, elle, par contre, est sur place, confirme les dires. Donc, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, parce que je n'ai pas parlé avec le consistoire. On ne peut pas accuser ou dire des choses si on n'a pas accusé, si on n'a pas entendu le côté du consistoire. mais elle organise déjà une caisse pour pouvoir une collecte pour pouvoir récupérer les fonds nécessaires pour deux causes. La première, c'est que, comme vous le savez, chers amis, le Alinu velo Alechem va la pécha de Israël. Et quand une personne meurt, c'est-à-dire quand la neshama sort du corps, la neshama ne trouve pas de repos tant que le corps n'est pas sous terre. Donc, il est prioritaire, impératif. Dans l'état actuel des choses, malgré la difficulté qu'on rencontre tous sur le domaine financier, on a déjà fait des dons, on a fait kimcha de pisra, les paniers, on a la famille à aider, on ne sait pas ce qu'il va y avoir demain. Il y a des efforts ultimes à faire. Moi, je vous dis une chose, jusqu'à maintenant, tous les dons que nous avons reçus, on les a distribués, on ne les a même pas gardés pour la hamouta, pour les collèles, pour payer les loyers. On compte sur Dieu. Parce qu'on reçoit, on le donne tellement les gens sont dans une espèce de grande difficulté, mais on a confiance que celui qui donne aujourd'hui nous donnera demain. On marche avec Hachem. Et la reine Devora essaye d'organiser pour des familles qui ont perdu un proche, qui ne s'en sortent pas du tout financièrement, ou alors Bichlal pour enterrer. J'espère que cette rumeur est fausse, que oy vavoy, qu'on ose demander 5000 euros dans les situations actuelles pour enterrer nos morts. Ce serait inadmissible d'entendre une chose pareille. Je ne veux même pas penser que ça puisse être vrai. Hachem ishmor virahem. Et oy vavoy au rabbanim de faire une chose pareille, de demander de 5000 euros pour enterrer une personne, surtout dans la situation dans laquelle on est. On n'a pas besoin d'être taxé, on a besoin d'être aidé.
J'ai mis le lien pour ceux qui veulent aider sur la page.
Donc voilà, nous-mêmes qui avons une amouta, nous-mêmes qui avons d'énormes sorties, nous participons volontiers à cette collecte, initiative de Dvora Amar, autant pour moi, qui a pris vraiment sur elle et à cœur, avec de grosses larmes, puisqu'elle m'a confirmé à mon épouse, pas à moi directement, pour être précis dans les mots, que c'était vrai, mais je n'ose pas le croire. Je n'imagine pas que le consistoire en France, si puissant, puisse achever, après la mort d'un juif, la famille aussi bas. Ce n'est pas possible.
Il paraît qu'il aurait dit qu'il
n'y
a même pas besoin de faire le deuil.
Ah oui, qu'il n'y aurait même pas besoin de faire le deuil. Oui, 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 Nachon aussi, on m'avait apporté ça. Alors écoutez, je ne sais pas quelles sont les références de ces rabbanim, je ne les connais pas. J'aimerais apprendre. Mais en tout cas, jusqu'à ce que j'apprenne leurs références, que si on mourait d'un virus, on ne prenait pas le deuil, j'aimerais juste qu'on me montre. Parce qu'effectivement, j'ai aussi appelé un rave très, très baki dans le domaine du deuil, spécialisé dans le domaine du deuil. Il m'a répondu, je n'ai jamais lu ça de ma vie. Moi, que je ne sache pas, je ne suis pas une grande référence. Je bouquine comme vous, j'étudie un petit peu. Lui, il est assis du matin au soir dans les études depuis des années. Il a ses théodotes de Dayan, ses théodotes de Rav, Yadin, Yoré, il a tout. C'est quelqu'un qui est assidu à l'étude de la Torah. Ce n'est pas un Chozer Bitshuva. C'est un homme qui étudie chez nous d'ailleurs. C'est un Avrech, mais qui est Rav de très haut niveau. Il m'a dit, mais Olam, jamais je n'ai entendu une chose pareille, qu'on ne portait pas le deuil. Quelles sont les références? Je ne sais pas, je ne connais pas. En tout cas, il se passe beaucoup de choses bizarres en ce moment. C'est vrai que ce sont des cas yotse min haklal qui sortent de la généralité, mais j'entends beaucoup de choses qui demandent réflexion. J'aimerais en faire une, par exemple. J'ai reçu à l'instant, donc je ne sais pas si je vais pouvoir vous le montrer. Je vais vous le montrer à vous, en espérant que vous pourrez le voir. Voici la lettre signée. Voilà. Un instant, non, c'est pas celle-là, c'est l'autre. Il y a tellement de lettres et de courriers, la vérité que. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous le voyez. Ici, c'est la lettre signée par les deux grands rabbanim d'Israël, Ashkenaz et Sepharad. Pour ceux qui le voient, je vous montre leur signature. Ici bien, le Rav David Lao, grand rabbin du rabbinat Ashkenaz, et ici, Maran. Le Rav Yitzhak Yosef, qui ont écrit donc une lettre qui ont signé, comme quoi qu'il était strictement interdit de repousser la date d'une Brit Mila. Et j'ai entendu pourquoi ils ont écrit cette lettre, parce qu'est venue aussi à leurs oreilles une rumeur que des rabbanim en France auraient dit que, vu la situation de la pandémie, eh bien, on ne pouvait pas faire la Brit Mila en son temps, et qu'on devra... On pourra la reculer, ainsi de suite. Ces deux rabbanim, vous pouvez les lire la lettre en hébreu, ont crié au scandale en disant « Mapitom, il n'y a aucun éther pour faire une chose pareille, une Brit Mila se fera en son temps, dans les consignes du ministère de la Santé. » avec le Moël et non pas un médecin ou un docteur. Donc il se passe beaucoup de choses en France, j'entends beaucoup, beaucoup de choses, mais sachez que ce sont des initiatives qui demandent des références. Je ne sais pas ce qui se passe, à Val, la France, ça bouge beaucoup. Pénurie de viande, apparemment il n'y aurait plus de boucherie, fermerait, on dit la Brit Mila, ils sont en train de fermer, j'entends que les mikvé sont fermés, je ne sais pas ce qui se passe, mais Zélo Besséder, il faut laisser un mikvé ouvert par région, que les personnes puissent y aller. Alors si elle ne peut pas y aller par exemple le vendredi, qu'elle puisse y aller au moins Motse Shabbat, dont les consignes, pas besoin d'être nombreux dans la voiture, Chas Veshalom, la femme y va, se trempe avec le chlore, nettoyer à l'eau de Javel, elle y va avec les gants, avec le masque, elle mettra le gel alcool, comme on fait en Israël. Et on n'a pas eu de problème avec cela. On a fermé une partie des mikvé, d'autres sont ouverts, on essaie de trouver des solutions, et les Brit Milot se font mamash à comité restreint. Alors au lieu qu'il le fasse avec la bouche, dans ce cas-là, il peut le faire avec le tube, pour retourner la peau de la Brit Mila, par exemple, pour ne pas infecter, on ne sait jamais s'il aurait éventuellement le virus. Mais ce que j'entends est extrêmement grave et je ne sais pas.
Comment on peut aller contre ça, justement, pour ceux qui sont en France et qui vivent ça?
Je suis...
C'est-à-dire que quand quelqu'un est mort et qu'on lui dit non, il vaut mieux que tu ailles le faire incinérer.
Hachem Ishmor, je ne peux même pas entendre des choses pareilles. Je n'imagine pas un monsieur représentant de la Torah, un vrai représentant de la Torah, dire « Si tu ne peux pas payer 5000 euros, alors va brûler ton mort. » C'est le Géinam. On est arrivé au plus bas du plus bas. On ne peut pas imaginer. C'est du devoir de la Rabbanout en France, du consistoire, de faire les choses gratuitement. C'est le moment d'ouvrir les caisses et de dire « Oh, on est là pour le peuple. Le peuple n'a pas cessé de donner. Depuis que je suis en France, petit, j'entends donner au consistoire. C'est au consistoire aujourd'hui de bouger et de donner. » Je ne peux même pas imaginer une chose pareille. Hachem Ishmor. Déjà que pour les mariages, c'était une guerre. Tu te maries, il faut que tu te ruines. Alma Velama. Alma Velama. Donc, comme je connais certains rabbinim du consistoire, que je connais comme des personnes élogieuses, comme le dernier Rav Assous, que je connais très très bien, qui est un grand Rav, le Rav Marciano, que je connais très bien aussi, Baruch Hashem, très bien. Je le connais. Je n'imagine pas que ce soit possible. Peut-être que ça vienne plus haut, peut-être que ça vienne plus bas. Mais on ne pouvait pas faire plus bas que de dire une chose pareille, ça par contre c'est sûr. Je n'ai pas de solution en Israël, je ne sais pas quoi vous dire. En Israël, grâce à Dieu, on a du respect pour nos morts, on ne les brûle pas, on les enterre. La Chevra Kadisha marche, on les fait venir de France, on les enterre avec respect. Je pense que chaque représentant de la Torah doit être un exemple, surtout dans une période aussi délicate, où on n'a peut-être jamais eu autant besoin de nos rabbanim pour les prières, pour les enterrements, pour les Brit Milot, pour les mariages confinés, pour... et de donner un bel exemple et non pas comme ce torchon qu'on vient de voir sur Mea Shearim avec ce qui vient de se passer de Chilul Hashem énorme qu'il y a eu à Mea Shearim parce qu'ils ont refusé d'écouter les consignes du ministère de la Santé à insulter nos soldats et à faire ce genre de choses. Je ne compatis pas avec eux, je ne me reconnais pas en eux et je n'ai rien à voir avec eux. Yeratzon Shizku Gam Larzor B'Tshuva Shlema. Amen. Bezrat Hashem. Tov.
Apparemment, il y a quelqu'un qui dit que le consistoire a fait un communiqué pour démentir.
Oh. Todaraba, c'est bien ce que je pensais. Donc voilà, vous entendez déjà, à ce qui paraît, vous voyez, c'est bien des rumeurs, il faut faire très attention à ce qu'on dit, mais ce n'était pas possible. Je te l'ai dit quand tu me l'as dit, Valérie, ce n'est pas possible. C'est pas possible.
Je demande sur démentir de quoi? Pour les Brit Mila ou pour les...
Démentir de quoi? De toute façon, on n'est pas aux informations régionales, je ne m'appelle pas Roger Jiquel et moi, je ne viens pas juger les gens. Je dis simplement que si vous avez des références en France, des rabbinim qui disent que vous pouvez brûler vos morts, que vous ne faites pas la Brit Mila, que... faut payer 5000 euros maintenant pour enterrer son mort. C'est-à-dire que le mec, déjà, il n'y avait pas de quoi manger. En plus, on lui demande pour enterrer. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il le met dans son placard. J'ai pas compris comment ça se passait. S'il y a des références au fait que l'on dirait, à ce qui paraît dans les rumeurs, qu'on ne porte pas de deuil pour quelqu'un qui est mort du virus, juste des références de la halakha, parce que jusqu'à maintenant, avec
les
géants.
Pour les Brit Milot, c'est un démenti.
Ah, pour les Brit Milot, c'est un démenti. Et pour le reste, c'est pas un démenti?
Ils ne savent pas.
Ils savent pas. Donc, on restera dans le domaine rumeur. Juste pour, dans ce cas-là, pourquoi en parler? Pour vous prévenir. Que si Chas Veshalom, on vous dit, un mec avec une barbe, avec une kippa, qui ferait mieux de changer dans ce cas-là de métier à la limite, c'est un métier qui va brûler son mort, Hashem Yishmor V'Rachem. Brûler le mort ne peut se faire que dans le cas où, d'une peste bubonique, dans un cas d'extrême avec un rabbinat, mamash, qui dirait que même le corps sous terre pourrait tuer d'autres personnes. Dans ce cas-là, il y a un digne de Rodef, ça veut dire un digne de meurtrier pour le corps qui continue à tuer des morts. Là, avec ce virus-là, il n'y a eu aucune information, aucune confirmation qu'un corps sous terre pouvait, chas v'shalom, être contagieux. Rachem, faites très attention et ne faites surtout pas brûler vos morts. Hachem, Shmor v'Rachem, ils sont tout et on n'en est pas là. Okay? Les rabbinim se sont aussi levés contre cela ici. Donc ce qui se passe entre la France et Israël, c'est que les rabbinim ici, qui sont de grands spécialistes de l'étude de la Torah, sont un petit peu déboussés quand je leur pose la question, ils tombent des nus. Hein? Quoi? Mais Anien. Donc nous, ce qu'on veut, c'est pas critiquer, c'est juste les références, parce que si on vous parlait au nom de la Torah, nous aimerions étudier cette même Torah. Voilà ce que nous disons, parce que, comme m'a dit Laura, il m'a dit, quand j'ai posé la question, il m'a dit, bah, dis-leur qui t'envoie les références. Quel shoot? Shoot, c'est quel possèque halakha, sur quoi il se base, de quoi est-ce qu'on parle? Voilà. Ken, t'es là. Il y a des questions-réponses?
Bah, c'est sur ce que tu parles là maintenant.
C'est-à-dire, mais sur Pessah, sur la situation. Il n'y a pas de questions du tout des gens? Il y a du monde de Bichlal?
Là, pour l'instant, ils réagissent par rapport à ce que tu dis.
Ah, très bien, top. C'était juste une parenthèse, parce que ce sont des rumeurs à mon goût, mais je me devais aussi de tenir les gens au courant.
Par exemple, là, ils disent que le consistoire a fait un communiqué comme quoi de faire les Brit Milot en clinique. Est-ce qu'on aurait droit de faire une Brit Mila en clinique?
Si on fait la Brit Mila par un moelle en clinique et que ça ne coûte pas une tonne d'oseille, ken, la dache ken. Maintenant, une Brit Mila, à partir du moment où on a une naissance d'un enfant qui vient au vent de le sortir de l'hôpital, à 8 jours précis, ici, le Rav Yitzhak Yosef, ainsi que le Rav David Lao, les deux grands rabbins d'Israël, disent, mamash, le 8e jour. On n'est pas obligé d'être 800 personnes, même d'être à Minyan. Il suffit simplement d'avoir le Moël. Pour marier un couple, il faut qu'il y ait le Khatan, la Kala, le Rav et deux témoins. On peut marier. Donc, s'il y a deux témoins, Nigmar, on peut marier. Pour une Brit Mila, il faut juste le Moël. Les Mazel Tov se feront par les vidéos, éventuellement. Aval, si la personne maintenant vient avec ses gants, qu'elle a été, Bezrat Hashem, confinée, que là où... Encore une fois, moi je ne suis pas non plus à la place des rabbanim. Je suis à 4000 km, je ne peux pas leur dire à eux qui sont sur place quoi faire et comment faire. Ils ont aussi des coups de téléphone du ministère de la Santé, je ne sais pas. On ne peut pas se mettre à leur place. Mais en tout cas, que ce soit à la clinique ou à la maison... de façon confinée et respectant les... Encore, j'insiste énormément, respectant les consignes du ministère de la Santé, on fait la Brit Mila le 8e jour, Nekouda.
Et si maintenant les Moëls refusent de faire la Brit Mila?
Si les Moëlim refusent de faire la Brit Mila, alors là, c'est un cas de force majeure pour ceux qui ont la Brit Mila à faire, et les Moëlim rendront des comptes devant Hachem. Ma pitom, lama, pourquoi ils refusent? Ils ne vont pas faire les courses? Ils ne sortent pas de chez eux du tout à ce point-là? Anilo Yoder. Anilo Khoshev. Je pense que justement la Misirut Nefesh des Moalim et des Rabbanim doit être aujourd'hui au summum de leur potentiel pour aider le peuple d'Israël, parce qu'on n'a jamais eu autant besoin de réconfort, surtout pour les Juifs de France. Déjà qu'ici, bon, mais on est quand même chez nous. On se sent quand même, on est confiné, mais on est en Israël, on se sent bien. Dans l'ensemble, on se sent bien, on s'entraide, on est là. En France, c'est des agneaux parmi des loups, c'est compliqué, c'est une situation qui n'est pas simple. Donc il est du devoir, Bezrat Hashem, des Moalim, de dire, voilà, je ne pourrais pas à telle heure, venir avec un cosmonaute, à la limite. On demande juste de couper et de retourner, et avec un tube éventuellement, même si ce n'est pas conseillé par certains poskib, mais au moins de prendre quelque chose du coton, parce que, pour la prière, pour le retourner, pour sucer le sang de l'enfant, pour qu'au moins il y ait une Brit Mila. C'est par ce mérite-là qu'on est sorti d'Égypte, et je vois que le Yetzer Hara frappe très fort dans les mitzvot qui touchent à la Géoula. La Nida... La Brit Mila. D'ailleurs, j'ai un ami qui m'a posé une très bonne question aujourd'hui à propos de ce qui se passe en France. Vous savez, comme le disait le Rabbi Lubavitch, que la Géoula viendra de la France. Ça veut dire quoi? Elle viendra de la France. C'est quand la France aura commencé à bouger réellement et à se vider de ses juifs, c'est un enseignement du Rabbi, que les autres juifs du monde entier pourront bouger. Comme si que le coup de départ viendra des juifs de France. Pourquoi la France? C'est un sujet que j'ai déjà expliqué, réexpliqué dans beaucoup de chiourim, car la France n'est autre que la capitale du cœur des Saves. C'est vrai? Comme je vous l'ai déjà dit dans un cours qui s'appelle « Les secrets de la France cachée », la France possède exactement le même dessin que les murailles de Jérusalem. Si vous prenez les 9 portes de Jérusalem sur un ordinateur, vous regarderez, ça ressemble à la France. Là où se trouve le Kotel, vous avez la Suisse. Mais pas que ça. Tous les pays qui entourent les frontières d'Israël sont des lettres qui composent le nom de Israël. Toutes les fautes de la connaissance du bien et du mal viennent de la France. C'est vrai? Comme par exemple la mode, elle est sortie de la France, même si elle s'est après propagée en Italie et ailleurs. Mais la mode, c'est la France. Le vin, c'est la France. La gastronomie, dans son ensemble, c'est la France. Le pain, c'est la France. La baguette française. Toute cette notion-là, comme j'explique dans un chiour il y a plus de 7 ans, vient de la France. Et la France, effectivement, il m'a posé une question, il m'a dit, mais les femmes ne peuvent plus aller au mikvé, patati patata. Alors c'est vrai qu'on saute un peu sur l'occasion, parce que la pandémie peut arrêter dans un mois, deux mois, et puis on retourne, et puis en fin de compte, ça ferait des langages pour rien. Zélo Nachon. C'est pas vrai. Tout ce qui se passe possède toujours un message. Comme c'est marqué dans tous les livres de Moussard, quand tu vis un événement, pose-toi les questions, pourquoi Dieu fait cela et quel est le message de Dieu? Parce que malgré les pantins qui ont véhiculé cette situation, il reste malgré tout des pantins derrière des plans divins, ou plutôt devant des plans divins. Mais la reine, j'ai un ami qui m'a posé une très bonne question, il s'appelle Stéphane, il m'a dit, est-ce que tu ne vous croyez pas que la France a fini son tikkun, les nitsotsot, il n'y a plus de neshamot à faire descendre, la nida, on ne peut plus y aller, mikvé. Alors je lui ai répondu par rapport à tout ça, trois choses. Peut-être que ça vous intéresse, c'est une discussion privée que j'ai avec lui, mais je n'irai pas jusqu'au bout de ce que lui, je lui ai dit, parce que ce sont des choses qui peuvent percuter un peu trop. Donc, moi, je ne tiens pas à faire ni de l'audition, ni du sensationnel dans mes chiourim, pas du tout. Je suis quelqu'un de émet, et je ne dis pas tout ce que je sais ou tout ce que je pourrais vous faire savoir, je ne le dis pas, parce que ça pourrait être sympa à dire, mais ça ferait des sujets très ambigus après qui provoqueraient beaucoup de choses dans la tête, donc je n'ai pas envie. La racine du mot tsarfat, tsar, fat, c'est deux mots. Selon la Kabbale, la racine, c'est le mot tsadiresh. Vous savez ça? Tsarfat, tsadiresh. La racine du mot mitzraim, metzer-im, c'est tsadiresh. C'est-à-dire que la racine de l'Égypte, l'Égypte d'avant, c'est l'Égypte d'aujourd'hui. Si vous observez bien, ce qu'on est en train de vivre, j'ai expliqué à mon ami Stéphane, c'est que on était confinés à l'époque en Égypte. Il y avait une neshama qui comprenait en elle toutes les neshamot. Comment il s'appelait? Yosef HaTzadik. Et où est-ce qu'il était confiné? Dans une prison. Il ne pouvait pas sortir. Il était confiné. D'un coup, Pharaon, donc symbole de toutes les nations, fait un rêve. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit 7 grosses vaches qui sortent et qui sont consommées par 7 vaches maigres qui les dévorent. Et puis, 7 épis de blé qui sont dévorés eux-mêmes par 7 autres épis de blé qui vont les avaler aussi. Je dis à mon ami Stéphane, tu regarderas que tout ce qu'on est en train de vivre dans la Torah, ce qu'on étudie dans la Torah, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. On est confiné à la maison et d'un coup, on nous apprend qu'en France, il n'y a plus de viande cachère, il n'y a plus d'abattoir, il n'y a plus de viande. Mais on apprend aussi qu'il y a un problème de nourriture. Il n'y a plus de blé. Ça se vide. Et le blé est une allusion à l'argent. Il y a un problème financier mondial. Quand Pharaon est venu voir Yosef, ou plutôt Yosef monté voir Pharaon, ça s'est passé à la veille de Rosh Hashanah, disent les Chachamim. Et c'était un message universel. Qu'est-ce qui s'est passé après cela? Yosef est devenu vice-roi d'Égypte et c'est lui qui a nourri. Toutes les nations du monde venaient lui demander à manger et à boire par rapport à la famine. J'ai expliqué, je lui regarde. Aujourd'hui, on est en train de vivre des événements qui se décalquent totalement à ce qu'on a vécu. On était en confinement, Yosef HaTzadik était en confinement, puis d'un coup, on l'appelle. On lui dit, qu'est-ce qui se passe? On lui dit, ben voilà, c'est marrant parce que dans le texte, là-bas, il y a un petit malin qui essaie d'accuser l'hébreu, le juif, c'est toute sa faute. Vous savez, il y a toujours ces vipères, menteurs et calomnieurs qui cherchent toujours à montrer du doigt. Quoi qu'il se passe sur terre, c'est de la faute des juifs. Et donc lui, il dit, « Eve d'Ivri, il y a un hébreu, c'est de sa faute, qui a l'habitude de traduire les rêves. » Et donc, il faut monter Yosef, et qu'est-ce qu'il lui dit? Voilà ce que j'ai vu. Il lui a dit, c'est très simple. Si tu crois que tu vas t'en sortir parce que tu as de la viande, il n'y aura plus de viande. Et si tu crois que tu vas t'en sortir parce que comment tu mangeras du pain, il n'y aura plus de pain. Yosef HaTzadik est appelé Ish Racham Ben Avon devant Dieu, et Pharaon le met à la tête. Je vais expliquer ces signes qu'on est en train de vivre avec la France. Si demain, il n'y a plus de mikvé, si demain, il n'y a plus de cache-route, si demain, il n'y a plus de ceci et de cela, que les robinets se serrent dans tous les domaines, les Juifs partiront. Ils partiront. Ce n'est pas une prophétie. Hein. Ça peut s'arrêter, vous resterez, j'en sais rien. Mais ce serait dommage de ne pas comprendre le message. pour Bezrat Hashem nous rejoindre en Eretz Israël, Betnaim Tovim. Et ne m'écrivez pas, oui, mais comment on fait quand on n'a pas d'oseille, comment on fait quand on est malade, comment on fait quand on ne peut pas venir, parce qu'on est divorcé, que les enfants sont au milieu, comment on fait? Ani lo yodea, je ne suis pas Dieu. Je ne sais pas. Ça ressemble un petit peu, et la seule réponse que je pourrais vous donner, c'est celle de Yosef HaTzadik. Un esclave oublié du monde, dans un cachot égyptien depuis 12 ans, est passé en une seule heure de esclave oublié du monde à roi du monde. C'est Dieu qui s'en est occupé. Les réponses, vous ne les aurez pas chez moi. Nous, on fera tout pour vous aider. Nous, on fera tout pour vous orienter. Nous, on fera tout pour vous faciliter les choses. Aval, je n'ai pas les clés du monde. Je n'ai pas les clés de la Parnassa. Et je ne suis pas Premier ministre pour ouvrir immédiatement une cellule, une crise d'urgence, une cellule d'urgence pour rapatrier les Juifs de France dans les meilleures conditions. Le jour où j'y serai, on avisera. Pour l'instant, ce n'est pas moi qui ai été élu pour cela et ce n'est pas mon poste. Mais la reine Bezrat Hashem, il est sûr et certain que la France passe des moments très difficiles, les Juifs de France, entre autres. Et à Kadosh Baruch Hu Bezrat Hashem, Shmo Retrem. Il ne faut pas se décourager. Hashem est derrière tout cela. Et Bezrat Hashem, bientôt vous sortirez de cela. En espérant que tout ça finisse très, 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 très vite et dans de bonnes conditions, sans guerre civile ou sans guerre mondiale. Bezrat Hashem.
Amen.
Ken.
Justement, par rapport aux Hébreux, il y a une question de Tzion Partouche. Y avait-il des Hébreux qui vivaient les 10 plaies d'Égypte comme les Égyptiens?
Seuls ceux qui... Alors comme ça. La question, c'est est-ce qu'à l'époque des 10 plaies, justement, en Égypte, est-ce que les Hébreux ont été frappés par les plaies? Réponse, non. Sauf une. Les Hébreux étaient tous confinés dans la ville de Goshen, province d'Égypte. Très, très, très grande province. Et tous les Juifs vivaient là-bas. La province de Goshen a été totalement protégé par Hachem. Donc les plaies ne les ont pas frappés. Seulement parmi eux, il y a des gens qui avaient décidé de ne pas sortir d'Égypte, qui s'étaient totalement habitués à l'esclavage, et puis de qui plus est, ils ne voyaient pas d'espoir pour quitter l'Égypte, traverser un désert pour entrer en Israël et se battre, retrousser leurs manches et se battre. On trouvera ces mêmes épisodes à l'époque des Méraglim. Les chefs du Sanhédrin, les religieux, eux-mêmes vont commettre cette même erreur en disant on a tout ce qu'il nous faut en galoute, les yeshivot, les mikvaot, les batemidrashot, on a tout ce qu'il faut, on n'a pas besoin de venir en Israël, on s'est fait Jérusalem là où on est. Si vous ne me croyez pas, lisez dans le livre Sefer Hassidim, il le dit noir sur blanc ce que je dis, hein. C'est pas de moi, c'est pas des opinions personnelles, mais bon, je ne veux pas cacher la vérité constamment pour vous faire plaisir. Mais la reine, eux ne sont pas sortis d'Égypte et ont été frappés. Les rabbanim du désert, les méraglim, qui ont cherché à protéger d'un côté leur honneur, de l'autre côté la facilité de l'étude de la Torah, au lieu de combattre le Yeshuv Eretz Israël, de s'installer en Israël, parashat méraglim shelach lecha anashim, hein, encore une fois, vous n'avez qu'à la lire, non pas comme une histoire préhistorique, mais comme un fait qui se répète d'année en année, ne sont pas sortis. Et le Midrash nous dit que les Hébreux, qui étaient juste 80% en Égypte, sont appelés Rechaim. Pourquoi? Parce que ça s'arrange ou que ça ne s'arrange pas en Égypte, ils ne comptaient pas monter en Israël et ils ne comptaient pas quitter l'Égypte. Alors Akadosh Baruch Hu les a tués en une seule plaie, celle du Rocher. La 9e plaie d'Égypte n'a pas réellement eu lieu quelque part pour les Égyptiens, mais elle est venue masquer une honte que le Créateur du monde a tellement eu honte de la réaction de ces gens-là qu'il les a tués. C'est la 9e plaie d'Égypte. Chamushim alu bene Israël mi Mitzrayim. Chazal dit Chamushim, 20% seulement sont sortis. Et le reste, ils disent on est très très bien là où on est. On n'a pas besoin d'être angoissé, arrêtez, il faut monter, stop. C'est très dur Israël, nachon. Mais il faut qu'on y arrive. C'est notre but à nous, tous, un par un, en se donnant la main. Bezrat Hashem, on y arrivera. Ken.
Bon, une question de Pessah. Qui a acheté du collier d'agneau, mais il n'y a pas marqué Kachar et Pessah dessus. Est-ce qu'elle peut l'utiliser?
Elle a acheté où? Dans une...
Kachar.
Vadaï que c'est Kachar, mais c'était dans un cellophane, c'était comment? Boucherie française. Dans le cas où il n'y a pas marqué pour l'agneau la viande, vous la rincez parfaitement. C'est cachérisé en France ou c'est à cachériser? Tu as besoin de l'odeur, parce qu'en France, je me souviens qu'on cachérisait la viande, tandis qu'ici, elle est déjà cachérisée quand on l'achète. Mais qui surveille la Inyan, si vous avez de la viande et vous n'avez que cela, Bezrat Hashem, si elle n'est pas cachère et pessar, en général, la viande est toujours cachère et pessar, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais, surtout quand c'est pas cellophané et ainsi de suite. Mais si c'est ce que vous avez par rapport à cela, vous pouvez simplement la laver et l'utiliser pour la manger à Pessar Bezrat Hashem.
Que pour la viande.
Que pour la viande. Surtout que vous allez la cuire avant l'entrée de la fête, je suppose. Donc ce sera encore beaucoup plus simple malgré tout, parce qu'il y a Batel Bechishim dans le pire des cas avant Pessar, mais il n'y a pas pendant Pessar. Quelqu'un m'a posé encore la question en me disant « Je n'ai pas trouvé d'épaule d'agneau, par quoi je puisse le remplacer ?» Il y a plusieurs déhôtes, il y en a qui disent le cou d'un poulet, vous pouvez le remplacer tout simplement par une côte d'agneau. S'il n'y a pas l'épaule d'agneau, vous mettez une côte d'agneau, vous mettez un morceau de viande qui pourra tout à fait symboliser l'agneau pascal, puisque de toute façon, ce n'est que symboliquement qu'on le place sur le plateau, Bezrat Hashem.
Tu peux rappeler que tu as fait les cours sur la cachérisation ?
Alors oui, 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 absolument. Juste comme ça, je voulais vous rappeler que nous avons fait des chiourim sur comment cachériser la maison, comment cachériser la vaisselle, comment cachériser une vaisselle dans le mikvé que je viens d'acheter. Ça veut dire j'achète une vaisselle maintenant, par exemple, chez Ikea ou n'importe où. Comment je fais ? Toutes ces réponses-là, vous les avez dans un chiot qui s'appelle
Cachérisation
des ustensiles de Pessah.
Sur YouTube,
toratraim.net, où vous voulez. On a déjà fait tous ces cours et on répond dans tous les cas de figure à toutes vos questions pour vous éviter de les poser. Vous vous posez vous-même sur le fauteuil et vous regardez le chiour et je vous promets qu'à la fin, vous n'aurez plus de questions puisque je fais vraiment attention à tout ce qui pourrait être posé et tous les cas de figure. Et ça ne dure pas très longtemps.
Est-ce que la sucrasie doit être obligatoirement cachère les Pessah ?
Tout ce que nous possédons pour la fête de Pessah, hormis les fruits, les légumes, doit être cachère les Pessah avec le tampon cachère les Pessah. Maintenant, la sucrasie, il faut savoir que ce n'est pas de la nourriture naturelle. C'est chimique. En général, on ne sent pas le goût. Si vous avez le tampon cachère les Pessah, vous l'avez, mais il faut savoir une chose, je vous demanderai de ne pas l'utiliser à mauvaise escience, c'est que très souvent, comme le consistoire le faisait, il passait, il nous donnait les étiquettes cachère les Pessah, on les mettait cachère les Pessah. Ce qui fait que le mec, il voyait, ah, cachère les Pessah, c'est nous qui mettions les étiquettes. Moi-même, je le faisais à Belleville, à Eligel à l'époque, pour les produits de cornichons, on savait parfaitement qu'il n'y avait pas de ramesse dedans, donc on mettait nous-mêmes cachère les Pessah. Donc si vous voulez vous référer à une meilleure chose, c'est de prendre la liste du consistoire, vous pouvez la faire descendre sur Internet. Vous regardez les produits cachers qui n'ont pas besoin de tampons parce que vérification déjà faite. Et ainsi donc, vous saurez pour tous les produits, pour la sucrasite, pour certaines boîtes de conserve, est-ce qu'il y avait vraiment besoin ou pas. Des fois, vous avez des tampons et en Israël, on a même de l'humour. Où est-ce qu'il est l'humour ? C'est que vous avez une boîte de conserve ici, vous avez un tampon badat qui dit pas cachère les Pessah. De l'autre côté, vous avez un tampon badass qui dit oui, cachère les Pessah. Plein d'exemples comme cela. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, quand ça avait été fait, ils ne l'ont pas vérifié. Ils sont revenus vérifier, BMET, il n'y avait aucun ingrédient. Dans ce cas-là, ils ont vu que c'était cachère les Pessah, ils ont remis un tampon cachère les Pessah. Ce qui compte, c'est que ce soit vérifié de façon sérieuse par un rabbinat reconnu d'État et reconnu du peuple.
Okay. A-t-on le droit de manger les œufs du plateau le lendemain ?
L'œuf qui est sur le plateau, les œufs, non. L'œuf, en général, on met un œuf. Cet œuf-là.
Il y en a qui
met 3. Qui met 3 œufs. À la reine, mettez la poule avec. Vous voulez mettre donc des œufs, vous pouvez tout à fait les manger après le seder de Pessah, même le soir. Cet œuf-là est posé sur le plateau du seder, représentant le korban chagiga, le korban de fête. Donc vous avez tout à fait le droit de consommer tout ce qu'il y a dans le plateau. La preuve en est, vous allez consommer les matzot qui sont sur le plateau, vous allez consommer les laitues qui sont sur le plateau et autres. Ainsi donc, vous pouvez tout à fait consommer l'œuf. Le seul qui risquerait d'être un problème, d'être consommé le soir, ce qui est strictement interdit, c'est si vous avez fait griller une épaule d'agneau, griller, écoutez bien les mots, pas cuit dans une marmite, pas dans un four, uniquement grillé dans le plateau, donc en souvenir du korban Pessah, celui-là, vous n'aurez pas le droit de le consommer le soir du repas de Pessah. Le lendemain, sans problème. Mais le soir, à sourd. Sinon, tout le reste, mettez du sel avec, la brioute, retrouvez le sourire et kiffez.
Est-ce que si on a utilisé la boîte de sucrasite cachère les Pessah, on peut la mettre de côté après pour Pessah ?
Okay. Si vous l'avez, toute chose que vous avez ouverte, en général, on a très peur que ce qui s'ouvre, avant Pessah, ça a été en contact. Mais si vous l'avez ouvert, et que vous avez par exemple un coin de la cuisine qui est totalement propre, kasher le Pessah, vous l'avez ouvert, vous avez fait vous-même attention, vous êtes mashgiach que rien ne l'est touché, vous la refermez, vous l'utilisez, vadaï sheken. Vadaï. Et d'ailleurs, c'est ce que vous allez faire. 2-3 jours avant Pessah, bah, vous allez commencer à cuisiner pour Pessah. Surtout en France, vous avez 3 jours, Yom Tov, Shabbat. Donc vous allez ouvrir. Alors quoi, on n'ouvre pas, vadaï, vous ouvrez. Juste faites attention pour celui qui ouvre, de mettre 2 kisouim, 2 plastiques, par exemple, si vous ouvrez une bouteille, de bien vérifier que la bouteille est bien fermée. Et à la limite de la scotcher pour être sûr que quelqu'un d'autre derrière votre dos viendrait à l'ouvrir et puis d'un coup faire une omelette avec je ne sais pas qui, pas quoi, en tout cas une bouteille d'huile ou autre. Ce qu'il faut, c'est les hashgiach, veiller à ce que si vous ouvrez quelque chose avant Pessah, donc quand même quelques jours avant Pessah et non pas dès maintenant, c'est parce qu'on est encore assez loin de Pessah, il pourrait se passer trop de choses avec tous ces jours. Mais si par exemple quelqu'un est seul chez lui dans son studio, il est seul, il sait exactement ce qu'il fait. Il ouvre une bouteille d'huile qui est cachée à la Pessah. Il a besoin d'une huile dans sa cuillère et il verse. Il referme la malo. S'il veut l'achmir, ah, ça a été ouvert, Vazareto Satana, le monde s'effondre, qu'il le fasse. Mais si, par exemple, il y a des enfants, c'est plus problématique. Qui t'a dit que les enfants n'ont pas mis quelque chose? Qui t'a dit ce que tu as? Alors, si tu prends maintenant, tu fais une armoire spéciale, cachère de Pessah, tu sors, tu as besoin, et que c'est cachère de Pessah, tu as besoin de quelque chose, et que tu refermes, tu sais que c'est toi, et tu as fermé, personne ne peut y aller. Mais faites que vous avez le droit de ressortir ces aliments pendant Pessah.
Concernant l'os du plateau, on a l'habitude, c'est un minag, de le prendre, de le mettre dans le congélateur ou dans le frigidaire. Après les fêtes, quoi, on le garde comme ça, l'os en lui-même.
L'os en lui-même?
Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a une...
C'est la première fois que j'entends ce minag, de garder l'os dans le frigidaire ou dans le congélateur. Les Tunisiens, eux, ils mettent de l'herbe. Ils mettent des feuilles de laitue sur toutes les portes. Après Pessah. Pourquoi? Parce qu'ils disent que comme ça, c'est un minhag pour que l'année soit verte, ça veut dire fructueuse. Dans mon sens, j'avais jamais entendu cette question avant maintenant. Je ne savais pas qu'il y a des gens qui faisaient ça. C'est un minhag algérien?
Et oui, peut-être marocain, je ne me rappelle pas.
Mettre l'os dans le congélateur.
Au congélateur, au frigidaire.
Et à quoi ça sert?
Je ne sais pas, avec du papier aluminium. Comme ça,
je ne connais pas. Il faut demander à celui qui a ce minhag.
Le Pessah d'après, on le jette après.
Ah, jusqu'au Pessah d'après en plus?
On garde, c'est un minag.
Alors, apparemment, c'est peut-être comme l'histoire des Aravot, peut-être que c'est un truc protecteur, un truc, je ne sais pas. C'est-à-dire, le mec, il y a un voleur qui rentre et il tombe sur un os. C'est une blague, mais je ne connais pas, je ne peux pas répondre.
Quand est-ce qu'on boit le cinquième verre de vin?
On ne boit pas. Enfin, vous pouvez le boire, mais en général, on ne le boit pas. On verse un verre de vin, qui est pour Elionavis Zachor Letov, on le met de côté. En général, qui sert ce vin, ce cinquième verre? On attend Eliyahu. Alors, c'est une blague parce que ce Pessah, on dit Kol Dirfin, Yeteve, Yechol, que tout celui qui a faim rentre chez moi et vienne manger. On est tous confinés chez nous, personne ne va chez personne. Donc, ça va être bizarre. Mais peut-être que c'est Eliyahu Hanavi Zachor Letov qui viendra. La reine, ce verre de vin-là est symbolique pour Eliyahu Hanavi. Ceci étant, on avait l'habitude de laisser ce verre de vin-là aussi pour l'invité, pour le pauvre. Pourquoi? Parce que là où il y a des pauvres, il y a toujours Eliyahu Hanavi, il y a toujours la Shekhina exactement, qui vient sur l'épaule des pauvres. Il faut savoir que quand vous avez le mérite de recevoir une personne pauvre chez vous pour manger, eh bien, vous avez reçu la Shekhina chez vous. Parce que toujours avec le pauvre, il y a Hachem. Donc en général, on garde ce vin. Nous, on a l'habitude, comme tous les juifs, d'avoir le verre de vin, on met derrière d'ailleurs. Et puis quand on a fini le seder, on ouvre les fenêtres, on regarde comme ça, est-ce qu'il y a vos machiach? Le yavo machiach, est-ce que vient il y a un avou? Est-ce qu'on aura une bonne nouvelle ou pas? Et si on voit qu'il ne vient pas, eh bien, on jette ce verre de vin. C'est pour ça qu'on prend un tout petit verre, pour pas qu'il y ait bal tachrit. Ce serait dommage de jeter du vin, surtout dans la période dans laquelle on est. À propos de cela, une femme aussi m'a appelé en me disant « Je suis dans une région de Paris, je ne me rappelle plus laquelle, je n'ai pas la possibilité de sortir, je n'ai pas qui m'emmène, et de qui plus est, je n'ai pas de vin, je n'ai pas de jus de raisin. Comment est-ce qu'on fait pour le céder de Pessah ?» Je me rappelle une fois que ma mère m'avait posé la même question il y a très 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 longtemps, c'était dans les années 92-93, et elle n'avait pas de vin. Et pour le kiddush du vendredi soir. Dans ce cas-là, avant l'entrée de Shabbat, avant l'entrée donc de la fête, vous avez la possibilité par contre d'acheter des raisins chez les non-juifs. Vous allez chez un primeur, vous achetez de grosses grappes de raisins magnifiques. Vous prenez la râpeuse, et vous fabriquez vous-même votre vin en faisant attention qu'il n'y ait ni les pépins, ni la peau. Simplement, vraiment le jus de raisin. Et sur cela, Bezrat Hashem, vous pourrez faire éventuellement votre kiddush.
Okay. Et tu avais dit la dernière fois dans un cours que quand on ne pouvait pas faire Pessah, on ne savait pas lire, on ne savait pas, on était tout seul, il y avait 3 mots à dire.
Effectivement, dans la Gada de Pessah, Kol Mishelo Amar, Matzah, D'accord ? Pesach, Matzah ou Maror, le Yatsa et Dechova, ce sont les trois mots dans le cas où une personne se retrouverait dans une situation d'impossibilité, ce qui n'est pas possible. Pourquoi ?
À l'hôpital.
Même à l'hôpital. Mais imaginez que... Pourquoi ? Ben, il peut lire en français, il peut lire en phonétique, il peut le faire. S'il a envie de le faire, il peut le faire. Mais une personne, par exemple, qui, lui, ne peut pas faire, pour X raison, alors il fait son kiddush, il dit « Pessah, Matzah ou Maror, Pesehu ».
Et c'est comme si qu'il avait fait Pessah.
Ben, je vais te raconter ce qui s'est passé. Quand il y a eu l'alia massive des Juifs de Russie, ils sont arrivés pour Pessah. Ils étaient à peu près 1000-1200 personnes. Un rav que je connaissais était là-bas. Maintenant, pour tenir un seder de Pessah avec des Russes qui ne comprenaient pas l'hébreu, qui disaient être juifs après vérification de leur mère et ainsi de suite, c'était avant que le bagat se mêle de cela et qu'aujourd'hui on peut faire monter n'importe quelle personne. S'il dit que son arrière-arrière-arrière-grand-père, quatre générations, était juif, alors on dit qu'il est juif maintenant à cause de bagat. Non, mamashlo. Qu'est-ce qu'a fait le rav? Il a levé tout le monde et dit, répétez après moi. Pesach. Pesach. Matzah. Matzah. Maror. Maror. La brioude de Tavon. C'est où? Et ils se sont assis, ils ont mangé. Après, bien entendu, manger les casettotes. Et ce qu'il y a à faire.
Et est-ce qu'ils pourront récupérer ce Pessah à Pessah Sheni?
Non. À Pessah Sheni, c'est le jour lui-même. La différence entre Pessah Rishon et Pessah Sheni, c'est que c'est bien de raconter l'agada Pessah à Pessah Sheni. C'est bien de manger de la matzah à Pessah Sheni, mais pas plus. On ne refait pas l'agada de Pessah dans ce cas-là pour Pessah Sheni. Mais par contre, ce que vous pouvez faire, c'est que même si vous êtes seul, même si vous êtes à deux, même si vous êtes à trois, peu importe, c'est de raconter les 10 plaies d'Égypte, de parler de vraiment bien d'Akadosh Baruch Hu, que Dieu n'a jamais laissé son peuple. Parce que une des âmes principales du Seder de Pessah, c'est la phrase suivante que tout le monde connaît. « Kol amarbe lesaper biyitziat mitzrayim arezeh meshubach ». Plus une personne parlera des prodiges, des extraordinaires miracles que Dieu a fait pour nous en Égypte, et plus ce sera digne de louange. Cette personne-là sera digne de louange. Il faut savoir que le Leil HaSeder, c'est une nuit d'amour absolu. C'est pour ça que la Megillat Shir HaShirim, si on a l'habitude de la lire de façon traditionnelle tous les vendredis soirs, en réalité le jour J de Megillat Shir HaShirim, de lire Shir HaShirim, le chantement du roi Salomon, c'est Pessah. À la base, c'est que à Pessah qu'on la lit. On a l'habitude de le faire tous les Shabbats, parce que Shabbat, c'est quand la Kala retrouve son Khatan, donc Boikala, Boikala, alors on lui chante d'abord Shir HaShirim, qui est d'ailleurs une très grande protection pour ne pas aller au Géinam après sa mort, de chanter Shir HaShirim tous les vendredis soirs selon nos Mekoubalim, mais ils peuvent tout à fait parler de Dieu, de la magnificence, comment on était en Égypte, faire la Gada de Pessah pour celui vraiment qui n'a aucune possibilité, je dis bien, il n'a pas le Seder de Pessah, il ne peut pas, tu mets tout à l'heure, c'est une personne qui est aveugle, ou je ne sais pas quoi, Anilo Adéa, toutes sortes de cas exceptionnels, eh bien, s'il dit Pessah, Matzah ou Maror, et qui raconte la Gada de Pessah à son niveau à lui, comme lui peut le faire, en mangeant sur le côté, bien entendu. Ça, par contre, il s'efforcera de faire aussi cela. Eh bien, ce sera son Pessah à lui 2020.
Ok.
Mais il est préférable de faire comme ça que de mettre le zoom.
Ah oui, de redemander les gens.
Encore, regardez, on ne va pas rentrer dans cette polémique. Tous les rabbanim, poskim alacha, que ce soit le Rav Yitzhak Yosef, le Rav Shlomo Amar, le Rav David Yosef et tous les autres, interdisent formellement le Zoom pendant Yom Tov. Voilà. Maintenant, qu'il y ait des rabbanim qui ont permis, qui disent ça à leurs élèves, mais d'enseigner ça au Klal d'Israël, Vadaï Shelo. Dans un cas de Pikwach Nefesh, une personne a des problèmes respiratoires, qu'il est seul chez lui, c'est du cas par cas, et qu'il serait dans une situation où Bémet, il y a besoin d'avoir une vidéo, qu'est-ce qui se passe, où est-ce qu'il en est? Alors dans ce cas-là, qu'il aille voir son rav et qu'il lui explique la situation, il pourra mettre une caméra, parce qu'il y a une notion de pikuach nefesh. Mais de mettre le zoom, de toucher le zoom, de mapitam, en davar kazé, j'ai déjà fait plusieurs cours sur cela, j'ai même apporté des références du Rav Ovadia Yosef sur ce sujet-là, et avec tout le respect que je dois à tous les grands de cette génération qui disent que oui, ce serait permis, ils n'ont pas encore le niveau des Gedolim d'Israël. Im kol hakavod. Im kol hakavod. Je ne fais pas de zilzoul. Je sais qu'il y a un Dayan extraordinaire, le Rav Eliaou Abergel, Shlita, qui est un Dayan exceptionnel, Afbeddin de Jérusalem. On ne parle pas de n'importe qui, on parle de quelqu'un qui a une très bonne connaissance en Torah. Avlim kol hakavod, Zadayin Lomaran, Zadayin kol hakavod et Koulam. Le Kalvachomer des Kalvachomer, que lui-même, de ce que j'ai entendu, qu'on m'a rapporté, il avait dit au cas par cas et non pas pour une généralité. Mais bon, celui en tout cas qui me suit, moi, le plus petit des petits rabbins, mais pas le plus moche, c'est une blague. Assour Bechlet de mettre le zoom pendant Yom Tov. Voilà, ça va être plus clair. Interdit, no, nein, le. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus?
Quelqu'un qui vient de Houtz Laretz et qui passe Pessah en Israël, comment elle fait le deuxième jour?
Elle le fait, c'est quoi la question? Si une personne n'habite pas en Israël.
Elle n'habite pas en Israël, elle habite en France. Elle est venue et elle passe les fêtes de Pessah ici. Donc elle est dans venue. Sa famille, avec sa famille.
Est-ce que cette personne est mariée? Il faut poser la question parce que c'est la suite. Pour pouvoir répondre, il faut avoir toutes les données. Alors, d'accord, on va donner les deux réponses. Si une personne vient de Houtz Laretz, on a déjà fait un cours sur ça. Je vais quand même y répondre. Selon les Lubavitch, donc celui qui est 100% Lubavitch, qui fait tout comme les Lubavitch, patati patata, et lui, il dit, non, pour moi, je suis Lubavitch, je suis né en Ukraine. OK. Pour les Lubavitch, la chita, c'est que si tu fais la fête en France, tu fais deux jours, tu fais les fêtes en Israël, tu fais un jour. OK. Pour le Rav Mordechai Eliyahu, celui qui a acheté sa maison, qui fait régulièrement ses allers-retours, il a une adresse, une Teoudat Zehout, il peut faire qu'un jour. Selon Maran Arab Ovadia Yosef, notre maître, notre dirigeant spirituel à nous tous, en tout cas, Mont Sfarad, en tout cas, il faut savoir que dans le monde entier, on est majoritairement. Majoritairement. Il y a un truc qui n'allait pas. On va tous, selon Maran Arab Ovadia Yosef, une personne qui est touriste et qui vient en Israël devra faire deux jours. Mais il y a des conditions. Si par exemple, elle vient au Shalosh Regalim, elle est là, Pessah, Shavuot, Sukkot, tout le temps. Elle fait qu'un jour, même si elle vit en France. Si cette personne a un appartement, elle a une Teoudat Zehout, selon le Rav Ovadia Yosef, mais qu'elle vit en France, même si elle est israélienne, mais elle vit en France, où est-ce qu'elle vit Tachles ? En France, elle fait deux jours, même si elle a sa maison, selon le Rav Ovadia Yosef, il Chot Yom Tov. Si, maintenant, cette femme est mariée, et qu'elle est en Israël, elle vit encore en France, elle fait deux jours. Mais, si cette femme est en âge de se marier, qu'elle est célibataire, et on lui pose la question, dis-moi, si tu rencontres l'homme de ta vie, ou pareil pour un garçon, tu rencontres la femme de ta vie, est-ce que tu restes? Ouais, je pense que oui, tu fais qu'un jour, même si tu comptes retourner en France. Ça, c'est selon Rav Ovadia Yosef. Donc comme ça, on a fait le tour de la question, et vous avez la réponse. Maintenant, comment elle fait deux jours? Elle fait deux jours. Là où elle est confinée, elle fera un jour de faire un jour de Yom Tov. Elle fera deux jours de Yom Tov, tout simplement. Donc deux fois la Gada Pessah. Et sur le côté, non, les femmes sur le côté, elles ne le font pas en général, mais elle fait le même seder, Bezrat Hashem, Vezeouze. Ken?
Non, je rappelle aux gens parce qu'ils demandent des questions concernant le jeûne du premier-né, la cacheroute, la galin.
Tout ça, les jeûnes du premier-né, j'en ai fait des chiourim entiers. Comment on fait si on est confiné? Je les ai fait hier, avant-hier, j'ai tout fait.
Sur YouTube.
J'ai fait exprès ces cours-là. Vous les retrouverez sur YouTube, vous tapez Rav Twitou. D'ailleurs, vous reconnaîtrez les fleurs qui sont derrière. Regardez bien les titres, jeûne des premiers-nés, là-bas, tout expliqué en une demi-heure. Pour toutes vos questions avec l'aide d'Hachem, vous pourrez obtenir réponse à vos questions, puisqu'on a fait un tour général du sujet. Par contre, pour la Seouda des Bechorot, des premiers-nés, le jeûne des premiers-nés, il est préférable, ou petit 1, de faire une Seouda sur des fruits et légumes, parce qu'on sera rentré dans l'heure de ne peut-être plus consommer Bichlal de Chametz, ou deuxième option, de faire ça sur du maisonnote. Nous, en général, tous les ans, Bet Midrash, bon là, le Bet Midrash est fermé depuis deux semaines, pratiquement, on faisait la Seouda sur des gâteaux kasher de Pessah. C'est-à-dire qu'on fait attention à tout cela, de ne pas consommer non plus du Hametz sous prétexte de le faire. Par contre, pour le Zoom, comme je vous l'ai déjà dit, pour le Seder, pour le jeûne, on a le droit de participer en Shidouchai, en direct, par le Zoom ou par Skype, ou je ne sais pas quel système, FaceTime, vous avez le droit de participer de chez vous au Sioum Masechet qui est organisé chez celui qui le finit, de vous organiser un petit plat derrière pour pouvoir faire Borepiré Adama, Borepiré Mezonot, Kacher de Pessah, ce sera préférable, Bezrat Hashem, sur des fruits ou autres, pour ne pas jeûner le jour du Sioum Masechet. Pour ceux qui n'ont pas tout cela et qui voudraient faire eux-mêmes, eh bien, il vous suffit de... J'ai fait un cours dessus, je sais, je finis juste comme avec ta permission. C'est pour une petite Masechet, Nitilat Yedaim, Tamid, et de faire justement les Mishnayot avec Barthénora, par exemple, ou le Kehati. Et si vous avez fini, vous pourrez vous-même, chez vous, mettre un terme à votre jeûne. Et puis, si vous êtes bien entendu l'aîné, et voilà, que vous pourrez consommer et ne pas jeûner.
Si une personne n'a pas l'habitude de manger du riz et qu'elle veut donner du riz à ses enfants ou à son enfant ou à son bébé, enfin un enfant de 1 an.
Il n'y a pas de problème, selon la halakha, de manger du riz. Même la Gemara, même si la Gemara dit dans Psachim qu'il est interdit de manger du riz, qu'il m'a pitant, on peut tout à fait manger du riz. Ce qui compte, nous, c'est la halakha. Alors les minagim, c'est bien beau. Pourquoi ? Parce qu'on engrangeait à l'époque le riz à côté, vous savez, des grands. J'ai fait plein de cours sur ça, énormément de cours sur cela, avec les références de la Gemara, les références de la halakha, que vous retrouverez sur toratrain.net, on les engrangeait dans les granges à côté du blé, donc il fallait vérifier. Les gens disent, non, je préfère pas. Il y en a qui disent, Bichlal, que le riz, c'était une des céréales. Donc il y en a qui disent, Mapitam, quand Rabbi Yochanan ben Nouri, dans la Gemara de Psachim, qui lui interdit de manger du riz, aval, selon la halakha, minadin, c'est un minag, ne pas le manger. Il n'y a aucun problème, Rabotai, de manger du riz à Pessah. C'est bien. Il ne peut pas être plus clair que cette phrase. La reine, une personne qui ne mange pas du riz peut tout à fait donner du riz à manger à ses enfants, surtout qu'il n'y a pas d'interdit dans ce domaine. S'il veut cesser son minag, il fait atarat nedarim et il mangera du riz et c'est très bon. Et il n'y a aucun interdit d'en manger. C'est juste un minag. Celui qui ne veut pas en manger, ne mange pas. Kitniot, les Ashkenazim, eux n'ont pas le droit d'entraver leur loi. Nous, les Sfaradim, il y en a qui ne mangent pas du pois chiche parce que c'est le mot hams. C'est un peu hams, ça fait un peu hametz. C'est vrai, ne mange pas. Moi, j'adore ça, j'en mange et je ne m'en porte pas plus mal. Chacun, c'est minagim.
Pardon. Est-ce qu'une personne seule, une personne âgée seule, est-ce qu'elle est obligée de faire la Haggadah ? Et si elle n'en a pas de Haggadah ?
Une personne âgée fera ce qu'elle peut. Je ne suis pas à sa place. Une personne qui est, que Dieu bénisse ma maman, mais dans un état très fatigué, je lui donne la Haggadah de Pessah à faire, au bout de la troisième page, elle va s'endormir, elle ne pourra pas tenir, elle va être fatiguée. Donc je ne peux pas répondre à cela. Elle fera ce qu'elle peut. Dès qu'elle voit qu'elle ne peut plus, eh bien, elle agira en conséquence. Prenons des cas, par exemple, très intéressants, de kazaït. Vous savez qu'on doit manger au moins 3 kazetot, 3 fois 27 grammes de matzah. Il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas. D'accord ? Alors qu'est-ce qu'ils prennent ? Ils vont aller selon la chita du Rambam, 18 grammes. Au lieu de prendre 27 grammes, prenez 18 grammes. Le Rambam, il dit kazaït, c'est 18 grammes. Donc tu prends une matzah de 18 grammes, tu la mouilles à... Tu peux même la mouiller sous l'eau. Nous, les Sfaradim, on n'a pas de problème avec ça, de mouiller les matzot. Il n'y a aucun problème. Celui qui veut l'ahmir, il y a ahmir. Alpi alakha, moutard. Donc tu prends ta matzah, tu la mets sous l'eau pour pouvoir la croquer. Et tu la manges, Be'ezrat Hashem, comme tu peux. Si une personne ne peut même pas manger 18 grammes de... Eh bien, elle prendra ce qu'elle peut. La Torah nous demande de vivre ces mitzvot, mais de ne pas en mourir. Donc si vraiment une personne ne peut pas, un tout petit bout, elle peut. Voilà, Hashem, c'est... Mon kazaït à moi, je suis fatigué, je ne peux pas, je ne suis pas bien. Elle mange, elle m'a la saute.
Pour info, pyrolyse, est-ce qu'on peut mettre le plateau de halavi
tout
et
ça,
le plateau de bassari en même temps pour faire la pyrolyse ?
Dans l'absolu, oui. Dans l'absolu, oui, parce que la pyrolyse monte à 500 degrés. Il est préférable de les faire séparer.
Pour cachériser.
Mais bevadaï que la pyrolyse, contrairement à ce qui a été enseigné, moi j'enseigne aussi ce que j'apprends avec mes rabbanim à moi. Pour mes rabbanim qui sont possèques à l'acha, de leur côté aussi, le four pyrolyse monte jusqu'à 500 degrés et les plateaux sont utilisables, je dis bien, les plateaux sont utilisables pour Pessah. Et c'est important de le savoir parce que c'est dommage de dépenser beaucoup d'argent. Si vous avez des plateaux que vous achetez une fois pour toutes, en achetant vos fours, d'ailleurs c'est ce qu'il faut faire, quand vous achetez un four, je vous donne un très bon conseil. Et Zeb Chacham aurait un olad. Quand vous achetez un four, de demander le jour où vous l'achetez, un double plateau, vous le prenez, payez-le. Vous le prenez et vous marquez dessus Pessah, comme ça vous n'avez plus tous ces problèmes et ils seront éliminés. Par contre, le four pyrolyse monte à 500 degrés et à 500 degrés, c'est prouvé scientifiquement qu'il n'y a ni du Hametz, ni quoi que ce soit qui puisse rester vivant ou exister sur un plateau quelconque dans un four pyrolyse.
Est-ce qu'on doit peser les aliments avant la fête de Pessah ou on peut les peser pendant Yom Tov ?
Oh, chez la Tova. Excellente question. Il y a une marloquette à savoir est-ce qu'on va selon le nefar ou le mishkal, c'est-à-dire est-ce qu'on va selon le volume de la matzah ou est-ce qu'on va selon le poids de la matzah ou du maror, donc les feuilles vertes. Réponse finale, pour ne pas rentrer dans toute cette marloquette qui serait un peu longue à expliquer, mais on va selon le poids, donc on va peser 27 grammes et non pas selon le nefar. On pourrait utiliser le volume dans un cas de cas de force majeure. Avalki Karon, on peut le peser, il est préférable de le peser quand on est des familles nombreuses avant la fête de Yom Tov. Donc de Pessah. Mais il n'y a aucun interdit pendant Yom Tov, les Tzorech Ha'inyan, de prendre une balance, attention, pas électronique, mécanique, comme on en avait ici, ça s'appelle des balances de poche, avec une pincette. Tu l'attrapes comme ça, et elle te pèse. Ce n'est pas interdit pendant Yom Tov de le faire, puisque tu vas manger et consommer ce que tu as fait. La reine, l'eau assourd, ce n'est pas interdit. Si c'est une machine mécanique, pas d'électricité, ce n'est pas électronique. Électronique, c'est issour des Rabbanan. Électricité réelle, c'est issour de Raïta. Mais la reine, moutard. Le mieux, c'est de préparer à l'avance. Mais sinon, vous savez, je veux dire quelque chose comme moi, je le fais. Aujourd'hui, je connais toutes les mesures sans les peser, je ne me trompe pas. À force de faire, tu pèses une matzah. Tu vois ce que ça fait ? C'est-à-dire, quand c'est les grandes rondes, par exemple, comme on a en Israël, 30 grammes, tu coupes la matzah en deux, ça fait 30 grammes. Alors, si elle est un peu défectueuse, tu rajoutes un peu. Tu n'es pas bête, tu calcules ce qu'il y a plus ou moins. Les matzot que vous avez carrés, vous savez les carrés là, les Rosinski, je crois que ça s'appelle.
Oui, est-ce qu'elles sont justement, j'ai une question, est-ce qu'il y a toujours un problème avec ces matzot ?
Je ne sais pas, ça fait longtemps que j'entends plus parler de la bienfaisante, de la Rosinski, je ne sais pas ce qui se passe avec ces matzot. Il y a une époque où il y avait beaucoup de polémiques sur ces matzot là. Ça fait 34 ans que je vis en Israël, je ne sais pas ce qui se passe avec ça, je ne peux pas répondre. Il faudrait demander à des rabbanim sérieux en France pour ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne connais pas. Mais en tout cas, nous ici, les Yehuda, enfin toutes les matzot que nous avons, sachez que les carrés, elles font 30 grammes. Pas besoin de les peser. Donc, mais par contre, pour le seder, il faut prendre matzah shmura. Et si on n'a pas trouvé à la main, au moins on prendra matzah shmura à la machine.
Ok. Il y a Ruben Haddad qui demande...
Ruben Haddad, tzaddik. Moi, je l'emprunte.
Alors, attends, voilà. Quel Hidour Mitzvah recommandez-vous pour le Seder ?
Oh ! Ça, c'est une question que j'adore. C'est une question à laquelle je ne m'attendais pas, mais il n'y avait que Ruben Haddad pour poser une telle question. Quel Hidour Mitzvah ? Quelle est la plus belle chose que l'on puisse enjoliver le soir du Seder de Pessah ? Je pense que ça se traduit par l'essence même de l'attente de la Géoula. Ça veut dire vraiment, et je veux dire pourquoi. Tu aurais posé la question à un Breslav, il t'aurait dit la joie ! Mais si tu attends la Géoula, t'es heureux. Tu aurais posé la question à Aaron, il t'aurait dit le shalom, mais si tu as la Géoula, tu n'as plus de raison de te fâcher avec tout le monde. Mais la reine, l'Ezrat Hashem, de vivre vraiment, si vraiment on veut enjoliver la mitzvah, c'est de raconter au maximum des louanges du Créateur du monde à sa table, à ses enfants, à sa femme, de les faire vivre, de leur raconter que Dieu n'est obligé de rien, qu'il ne nous doit rien, qu'on lui doit tout, qu'on ne doit pas être ingrat. Parce que tout le Seder de Pessah qui a lieu tous les ans, ce n'est rien d'autre que revenir sur nos pas et dire au fait Hachem, merci pour tout ce que tu as fait, parce que si tu ne nous avais pas fait sortir d'Égypte à cette époque là-bas, aujourd'hui encore, nous serions en esclavage là-bas. Achen Baruch Hachem, Dieu nous a sortis de cela, et c'est de faire vivre Pessah, c'est le plus grand Hidour Mitzvah de la soirée. Faire vivre à tout le monde, faire vibrer tout le monde. Comment on fait ? Ah, c'est facile, les mecs, on va vibrer. Comment ? On pose des questions. Prépare à l'avance, prends un carnet, voilà, question sur Pessah, prépare des petits cadeaux pour les enfants, des surprises, avec les moyens du bord, avec ce qu'on peut trouver. On prépare la soirée, on prépare des histoires. Et bien entendu, on ne s'attarde pas trop. On va selon le rythme, écoutez bien ce que je vous dis, c'est très important. Les Mekoubalim, ils durent jusqu'à 2-3 heures du matin, même s'ils ont fini la matzah avant, la fikomen avant Khatsot, Laïla, avant le milieu de la nuit, c'est sûr. Mais faites très attention à table, vous, les pères de famille, ou les mamans qui sont des fois aussi monoparentales, de bien veiller à ce que toute la table avance avec vous. Parce que des fois, vous allez vous étaler, et la joie du céder devient une galère. Parce qu'on se dit, j'en peux plus, quand est-ce que c'est fini, quand est-ce qu'on mange, quand est-ce que Birkat Amazon, il faut après nettoyer. N'oubliez pas cette Torah de vie. De faire la Gadat Pessah, de la commenter, mais d'avancer. Une fois que c'est fait, qu'on est passé à table, ça y est, maintenant, on a fait Nitilat Yadayim, on va remanger la matzah, on passe au repas, on remonte le moral de tout le monde, on donne de la force à tout le monde, on aime tout le monde, on parle de personne, pas un mot sur un juif, particulièrement le soir du Seder, ce serait débile de faire une chose pareille. Et puis après, on les emmène vers le Birkat Amazon, dans une grande joie, avec le verre de vin. Puis après, on fait le Hallel, en chantant, Shmat Kol Chai. Une fois qu'on a tout fini, on passe dans le salon, les enfants seront fatigués, la femme épuisée, avec un sourire, un regard bienveillant, Frachir Hashirim, avec une jolie voix. Puis après, si vous, vous avez la force, vous faites un peu de Zohar, un peu de Mishnah, un peu de Pesachim, si vous pouvez durer un petit peu, voilà comment on fait Pessah. Moi, tous les ans, vous pouvez demander à ma femme, je regarde toujours vers la fenêtre. Et je dis à Kadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, nous, on avait tout préparé pour la Géoula. Peut-être que tu nous envoies maintenant le roi Mashiach. Allez, vaille. La première fois que j'ai fait ça à ma femme, première année de mariage, elle pensait que j'étais fou. Elle me dit, qu'est-ce que tu fais? Avec qui tu parles? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis Mechakelo. Allez, maman, je Mechakelo. Et s'il ne vient pas ce Pessah, il viendra le Pessah d'après. Et s'il ne vient pas le Pessah d'après, nous, ce qu'on a à faire, c'est lui dire qu'on est prêt. Et Dieu fait ce qu'il veut. D'accord. D'autres questions?
Non. Si tu peux juste rappeler que les gens, s'ils veulent participer, pour les gens qui ont du mal à enterrer leur mort.
Oui, je rappellerai effectivement ce dont on a commencé, pour ceux qui veulent aider, ceux qui peuvent, dans vos régions en tout cas, vous renseigner pour enterrer. Vous savez que c'est une très grande mitzvah, Chesed Shel Emet, ça s'appelle d'enterrer des juifs. À ce qui paraît, encore une fois, je parle d'une rumeur auquel je refuse de croire, on demanderait 5000 euros pour enterrer dans une période comme la nôtre des morts, alors que ça devrait être fait à mon goût, Bichlal, pour une somme modique, pour dire autre chose. Voilà, donc il y a une caisse qui est en train de se faire, une collecte par Devorah Amar. Shar Koach, Devorah, pour tout ce que tu fais, tu fais beaucoup de bien, grâce à Dieu. Tu t'occupes beaucoup des autres, tu prends un cœur, tu aimes ton peuple. Ça donnera beaucoup de mérite pour beaucoup de bonnes choses, l'Atid Lavo. Et puis chacun de vous, Bezrat Hashem, je vous demanderai aussi de penser à vos épouses, pour les hommes, de les aider, de les consoler, vraiment de les remonter. Les femmes ont besoin d'être remontées aussi moralement. Elles ont tout sur les épaules, elles ont tout sur le dos, elles n'ont pas une vie facile. Et puis vous, mesdames, de votre côté, veillez à vous faire joli pour vos maris. Ah, il a dit un mot qui n'était pas à sa place, laissez passer. On va dire comme ça, ne prenez pas à cœur. Les enfants, si vous écoutez, veillez aussi à aider vos parents, ne pas trop crier, de leur obéir, Ezrat Hashem, de ne pas vous battre. Et vous, de l'autre côté, n'oubliez pas que les enfants ont le droit à l'erreur, mais pas vous. Donc comprenez-les, ils sont dans une situation aussi difficile. Après, si chacun comprend et garde bien son poste, son rôle à jouer, il n'y a aucune raison pour que cela se passe mal. C'est d'occuper Bezrat Hashem par des livrets Torah. Des heures, on étudie la Torah. Des horaires, on joue ensemble. Des horaires, on va se reposer. Des horaires, de fixer comme ça une espèce d'emploi du temps jusqu'à ce que cette épreuve difficile se finisse et passe Bezrat Hashem afin que l'on sorte glorieux et avec le sourire.
Juste, si tu peux rappeler, il y a une dame qui demande pour le Hallel, est-ce que les femmes doivent lire le Hallel avec la bracha?
De Pessah, oui. Le Hallel de Pessah, même du soir, elles le disent avec la bracha.
Avec la bracha?
Oui.
Et bon, là, elle dit avant qu'il rentre de la Beit HaKnesset, mais
il n'y aura pas de Beit HaKnesset, à moins que si, il y aura peut-être la Beit HaKnesset, il ne faut pas être négatif.
Et si elle n'a pas eu le temps de la lire, est-ce qu'elle peut le lire après le dessert? Il n'y a pas de dessert.
Mais après le dessert, on refait encore à Hallel.
Il n'y a pas de dessert.
Quel dessert? Si, on peut tout à fait prendre le dessert après la Ficoman. On peut tout à fait boire un café ou manger un fruit après la ficomane. Il faut garder le goût de la ficomane. Mais Kikaron, en général, on évite les desserts, mais on peut boire un café, enfin, on peut même... Chacun son minag aussi là-dessus, Bezrat Hashem. Mais on fait encore le Hallel après. Donc, si on ne l'a pas fait avant, c'est un peu problématique. Puisqu'on va le faire, quoi, deux fois après, de suite, de l'homistadère. Il faut le faire avant. Zéon ?
Voilà. Juste quelqu'un qui dit que... qui dit qu'il y a quand même eu 182 morts dans la communauté juive en France.
C'est un drame, j'entends, et je peux vous affirmer que je confirme. Par contre, là, tu vois, ce n'est pas une rumeur. Je confirme. J'ai toute la journée moi-même, Rav Tutu, mon père est mort, ma tante est morte, ma mère vient de mourir, aujourd'hui. Hein, je vous parle de ça aujourd'hui. 82 ans, 78 ans, j'ai eu tous les âges, même 84 ans, Shem Yazor. C'est une maca qui est quand même limitée, même si la vie d'un juif vaut tous les trésors du monde. Mais il y a aussi un message pour nous. Et j'espère que Bezrat Hashem, ce message, ça te traduira par deux choses. Un changement de notre façon d'être, une preuve d'Emouna et une résurrection des morts. Comme je vous l'ai déjà dit, la mort n'est pas le dernier mot de l'histoire. C'est pour ça qu'il y a la résurrection des morts. Parce que s'il n'y avait pas de vie après la mort, ça voudrait dire que la mort est plus forte que la vie. Et donc, dans ce cas-là, si c'est la mort qui l'emporte, c'est que la vie ne mérite pas d'être vécue, puisque c'est toujours lui le gagnant. Réponse chez les Juifs, la mort n'est juste qu'un passage qui ramène à la vie. Parce que pour revivre, il faut mourir. C'est une maca qui est très difficile. C'est une situation qui est très délicate parce qu'on ne peut pas les accompagner. On est confiné à la maison. Il y a énormément, vous savez, de gens qui sont décédés en France autour de moi. Et la famille est ici. Ils ne peuvent même pas aller. J'ai un ami qui a perdu son père. Il est terrifié de la situation. Il est retourné de la situation. Ils essaient de faire venir le corps. Ils parlent de faire passer par certains pays suspicieux, très dangereux, à Niloidea. Mais on est face à une situation vraiment de grande mise à l'épreuve. Et il faut rester transparent, éviter de prendre à cœur tout ça, mais il faut prier. Si HaKadosh Baruch Hu a multiplié tout cela, j'aimerais vous dire une phrase du Talmud dans Maseret Sanhedrin. Avant que ne vienne le Melech HaMashiach, on n'aura pas le temps de se soigner de la morsure du serpent qu'on sera frappé de la patte de l'ours. On n'aura pas le temps de se soigner de la patte de l'ours qu'on sera déjà mordu par le lion. On n'aura pas le temps de... C'est exactement ce qu'on vit aujourd'hui. On n'a pas le temps de pleurer un mort qu'on entend déjà celui-là qui est malade. On n'a pas le temps de... Non-stop. Mais comment on fait pour tout ça? On ne prend pas à cœur, on écoute, on prie, on se tait et on avance. Jusqu'à ce que tout ça s'arrange, tout ça passe, et Bezrat Hashem, qu'on ait tous une belle Geoula, Bikarov, Bikarov, Amen.
Amen.
Toda Rabba, Litraot, on se revoit demain, Bezrat Hashem, pour 3 Shiurim, le matin, enfin vers midi, 11h30, on verra, le temps que vous arrangez un peu la maison, déjeuner ensemble. Il y a un mec qui m'a dit, Isaac, j'ai pris enfin le café avec ma femme depuis... C'était Shalom Aish, Taish. Un cours vers l'après-midi, puis encore un cours le soir. Merci, je m'excuse pour tarder des noms qui ont acheté des shiurim, mais je voulais simplement vous dire que j'en ai encore une cinquantaine, donc je vous place dans l'ordre chronologique. Soyez un peu patient, j'en suis à 3 cours par jour. Ces cours vous sont sanctifiés, mais voyez que je n'attends pas votre cours pour rappeler les gens qui sont malades ou les gens décédés. On les cite, on prie pour eux. Bezrat Hashem, soyez indulgents en ce qui me concerne, je ne fais que ce que je peux. Et beaucoup, beaucoup de remerciements pour votre aide. Vous avez été nombreux à nous aider et continuez à le faire parce qu'on est nombreux aussi ici à aider. On a encore des familles qui tapent tout le temps à la porte et ils viennent prendre leur enveloppe. Pour d'autres, on fait des virements pour qu'ils puissent aussi passer les fêtes de Pessah. Bezrat Hashem. On n'a jamais vu quelqu'un devenir pauvre de la tzedaka qu'il a donnée, dit la Gemara. Jamais. La reine, que Dieu vous remplisse de joie, d'abondance, de richesse. Et de Géoula. Toda. Oui.